Toulon, sur la trace des champions. Rugby Club Toulonnais 1992-2022, les 30 ans d'un titre impensable. Un podcast de la rédaction des sports de Varmatin.
Je vous invite à écouter l'ovation qui salue l'entrée dans le stade des deux capitaines.
Il y a des joueurs comme ça, qui semblent n'avoir peur de rien, ne voient pas le danger et avancent sans se faire de nœuds dans la tête. En 1992, Yann Delegue était l'un des espoirs du RCT. Le joueur de 18 ans à peine se voit propulsé ouvreur de l'équipe. Yann Delegue aime jouer, mais sa feuille de route, c'est apprendre à respecter le plan de jeu établi, car il n'y a pas forcément de place prévue pour les artistes dans le système de l'entraîneur Jean-Claude Balatore. Sauf que le Toulonnais en est un grand artiste. Et il séduit par ses qualités sportives, son état d'esprit, son insouciance. Bientôt, en équipe de France, on lui donnera le surnom de « Petit Mozart » et cela restera. En 1992, le RCT se relève d'un début de saison improbable, carrément catastrophique, mais se redresse, conquiert la finale et devient champion de France, bouclier de Brennus dans les bras. Yann Delegue rêvait de rugby et de RCT depuis son enfance, et pour cause, son père avait ouvert la voie. 30 ans après, il nous raconte aussi son obtention rocambolesque du baccalauréat avec un oral de rattrapage mythique, Yann Delegue ou la naissance du petit Mozart. Il est au micro de Pierrick Illic Ruffinati.
Yann, bonjour.
Bonjour.
Si je te dis 1992, qu'est-ce qui te vient en tête là tout de suite ?
Année magique. Année magique pour moi, puisque dans cette même année, j'ai le permis de conduire, j'ai le baccalauréat, je suis champion du monde junior avec l'équipe de France junior, et surtout, je suis champion de France avec l'URCT. Donc c'est une année juste extraordinaire. Je crois que j'en ai eu qu'une comme ça dans ma vie, d'année folle comme ça.
Il y a des années où tu es touché par la baguette magique, c'était celle-ci pour toi ?
Ouais, tout force à croire que oui, effectivement, c'était cette année-là qui était marquée dans mon agenda de vie. Donc, ouais, non, une année très très forte, très riche en émotions, bien sûr.
Alors, on va rentrer dans le récit, mais avant de démarrer, tu parles de bac, tu parles de permis, tu parles d'être champion de France, champion du monde. Si tu dois garder qu'un seul souvenir, est-ce que c'est ce titre de 92 avec le RCT ?
Ah, parmi tout ce que je t'ai dit là, ben oui, non, mais il n'y a pas de doute. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Mais évidemment, c'est l'émotion la plus forte de l'année 92, bien sûr.
Bon, alors on reprend le fil de l'histoire. À l'époque, tu as 18 ans, 19 ans au cours de l'année 92, mais la saison commence en 91. Tu es un tout jeune joueur. À quel moment tu intègres cette équipe du RCT ?
Alors en fait, l'année de mes 17 ans, la saison d'avant, Daniel Herrero, qui était aux commandes du RCT, m'appelle pour que je vienne m'entraîner pendant à peu près un mois et demi avec l'équipe première. Donc déjà, je commence à pointer le bout du nez. Je suis deux fois remplaçant, une fois à Bayonne et une autre fois à domicile contre un petit club. Et il doit me faire rentrer. Et en fait, il se rend compte juste avant le match, je suis sur la feuille de match, qu'en fait, il ne peut pas me faire rentrer parce que je ne suis pas majeur et qu'il fallait une autorisation parentale, autorisation du comité, autorisation du médecin, enfin bon, tout un bordel. Donc finalement, je ne peux pas rentrer et je ne fais pas de match dans cette saison-là, mais je commence à m'entraîner avec eux et donc ça me fait quand même du bien. Dans mon enrichissement rugbystique, ça me fait du bien. Et ma véritable carrière avec les grands, j'ai envie de dire, commence effectivement dès le stage en 91-92. Donc on fait un stage avec... Il faut savoir quand même que cette année-là, c'est une saison où l'équipe a beaucoup changé. Il y a eu énormément de départs à la fin 91. Et donc l'équipe est en reconstruction. Donc en s'appuyant sur des anciens, et quels anciens, puisque c'est quand même des mecs en or et des mecs d'un très très haut niveau.
Et des champions de France 87 notamment.
Ouais, exactement, je pense à eux. Et notamment des minots, des petits juniors qui sont là. Je pense à Patrice, je pense à Marc de Rougemont, à Gérald Orsoni, mais à plein d'autres, hein, Igor Juzon, on était vraiment beaucoup plus nombreux que ça en fait. Et on vient intégrer le collectif. Et après, l'autre truc, c'est qu'on joue assez vite avec Patrice en fait. Parce que à notre poste, ils avaient recruté Francis Laglaise et Aubin Weber. Ça faisait partie des recrues un peu phares. Sauf qu'ils étaient en licence rouge pendant la moitié de l'année. Donc du coup, ça ouvrait l'opportunité de jouer au moins la moitié de la saison en titulaire, en attendant que les autres reviennent, que Francis Laglaise revienne en l'occurrence. Mais puis voilà. Puis après, ça a été le jeu de la concurrence.
Alors, tu dis que c'est Daniel qui te fait confiance en premier, Daniel Herrero. Cependant, il y a un changement de coach Quel est le discours de Jean-Claude Ballator à ton égard à ce moment-là?
Ben, que ce soit Daniel ou Jean-Claude, c'est des entraîneurs qui me connaissaient bien, parce qu'ils avaient joué avec mon papa, et qui avaient joué dans les années 70 à Toulon. Et Daniel, effectivement, je l'avais à l'école, il était prof à l'école où j'étais, Daniel. Donc j'étais en contact avec lui en permanence quand on était à l'école, quand on jouait au rugby. Effectivement, il m'a fait faire les premiers pas à l'entraînement, mais c'est Jean-Claude Ballator, oui, qui m'a fait jouer en équipe première. C'est à lui que je dois mes premiers pas dans le plus haut niveau, effectivement. Ouais. Et son message... Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, on a une équipe quand même qui est très moyenne. Il n'a pas beaucoup d'autres choix que de faire confiance à des jeunes. Alors, ça aurait pu être un autre que moi, évidemment. Son message, c'est un rugby basé sur la rigueur, où il veut vraiment... Il définit un plan de jeu qui n'est pas très aéré, qui s'appuie sur les valeurs ancestrales du club, c'est-à-dire la conquête, l'occupation du terrain, la vaillance, bien sûr, mais aussi... une stratégie un peu minimaliste. Et évidemment, moi, c'est pas le rugby que j'aime et que j'aime pratiquer. Donc, je suis un peu pas en conflit, hein, parce que quand t'arrives et que t'as 18 piges, tu fermes un peu ta gueule et tu joues. mais c'est vrai que c'est pas le rugby où je m'épanouis le plus. Mais malgré tout, tes premiers pas en équipe première, tu cherches pas à t'épanouir tout de suite. Tu cherches surtout à prendre de la confiance, gagner des minutes. Et puis voilà, et puis il joue avec les grands, quoi. C'est quelque chose de nouveau et de très enrichissant. Et puis surtout, ça apporte rien que ça, beaucoup d'émotions déjà.
On parle souvent de l'insouciance des jeunes joueurs, et notamment de votre génération. Toi qui es un joueur d'attaque, on te met dans un système où il faut mettre des grands coups de pied dans le ballon. Est-ce que tu trouves ta place? Est-ce que tu arrives malgré tout à prendre du plaisir dans ce système de jeu?
Non, j'arrive à prendre du plaisir de fait de jouer dans une équipe première du RCT parce que c'est un rêve d'enfant. Et que ce rêve-là, je le touche du doigt. Donc là, ce plaisir-là, il y est. Le plaisir du jeu, il y est par moment, par bride, effectivement, parce qu'on n'a pas fait que taper non plus dans le ballon, toi. On a un peu joué au rugby aussi. Mais c'est vrai que on sent qu'on le fait à contre-courant. Quand on le fait parce qu'on prend nos libertés, mais on sait qu'on le fait à contre-courant de ce que veut le coach. Donc effectivement, à chaque fois que tu pratiques un jeu un peu plus aéré, tu le fais sous pression. Parce que il faut que ça marche. Parce que si ça marche pas, voilà, tu as des histoires.
Alors, je reviens sur un point très précis. Tu dis que c'était un rêve d'enfant pour toi de gagner, ou en tout cas de jouer en une avec le RCT. Ton histoire, elle est particulière parce que si tous tes potes ont tous grandi à Solliès, à Sanary ou à La Seyne, toi, tu es parti, donc tu es né à Toulon, et ouais. Très rapidement, tu es parti vivre à Vienne, t'installer à Vienne avec tes parents, enfin t'installer, t'avais quelques mois, donc t'es ouais. Parti suivre tes parents. Et c'est toi-même, de ta propre initiative, qui est revenu à Toulon pour parfaire ta formation de rugbyman.
Ouais. Bah déjà, effectivement, j'étais né à Toulon quand mon père y jouait. Et puis le fait que, familialement, mon père a joué à Toulon quelques années, notamment la finale 71, c'est un club qui ne m'a jamais laissé indifférent. J'ai toujours supporté le RCT et dès mon enfance. Donc évidemment, à l'âge de 15 ans, quand j'ai pu, à un moment donné... Quand c'est l'âge où ça commence à évoluer et que tu te dis que peut-être tu peux faire une carrière dans ce sport-là qui est ta passion, je me suis tourné vers Toulon tout de suite. Et en fait, la question ne se posait pas, en fait. Hein, c'était vers Toulon directement. Donc j'ai rallié le RCT. C'était dès mes 15 ans et parce que j'étais passionné. Et effectivement, le premier rêve, c'est de jouer en équipe première. Mais une fois que tu l'as acquis, t'en as d'autres des rêves et ils sont arrivés vite.
Et justement, est-ce que tu étais aussi toulonnais que Patrice Tesser, que Gérard Orsoni, que Marc de Rougemont dans ton esprit?
Dans mon esprit, oui, parce que j'ai toujours supporté ce club, même à distance entre 5 et 15 ans. Donc effectivement, je me sentais toulonnais et... Et puis en plus, je connaissais ce club par cœur, parce que j'étais capable de citer l'équipe de 71, de 73. Je suis pas sûr que Patrice ou Marc, ils étaient capables.
C'était les copains de ton père, du coup, forcément.
C'est une génération, j'en avais tellement entendu parler. Et puis moi, je suis issu d'une famille rugby. Mon grand-père maternel jouait au rugby, déjà, pas à Toulon, mais à Vienne. Et donc, je baignais dans ce milieu-là. Donc oui, j'ai une grosse culture rugby. Et j'étais passionné par ce club de Toulon.
Donc tu fais tes pas très rapidement dans cette équipe. Dès le début de saison, tu intègres le groupe. Quelle est ta place dans ce groupe quand on est ouvreur, qu'on a 18 ans? Comment on se fait sa place?
Ça s'est fait assez naturellement. Même si effectivement, dans ce rôle de numéro 10, il faut que tu sois gestionnaire, organisateur. Et ça nécessite de l'expérience, que je n'avais pas. Et donc, ben, j'étais quand même bien aidé par des joueurs autour de moi. Donc ça, c'était on se sentait épaulé. Et puis après, je crois qu'il y avait une partie d'insouciance aussi qui faisait que, ben, que en fait, tu vois jamais le danger, tu as peur de rien quelque part. Et où certains pourraient se faire des nœuds à 25 ou 26 ans, ben, toi, à 18 ans, tu fais pas de nœuds, tu joues, tu t'envoies, tu donnes tout ce que tu as et juste tu te fais plaisir. Donc en fait, c'est des questions que tu te poses une fois que tu as fait 5, 6, 7 ans de carrière. Mais au début, c'est des questions que tu te poses même pas, en fait.
La boule au ventre, avant de rentrer sur un terrain, tous les rugbymen l'ont connu, au niveau amateur, au niveau professionnel. Ouais. Toi, tu as 18 ans, est-ce que tu as la boule au ventre la première fois qu'on te dit, bah, on te donne le maillot dans le vestiaire et tu as le numéro 10 ?
Ouais, ouais, tu as une pression, bien sûr que tu as une pression. Mais moi, cette pression-là m'a toujours fait avancer, ça m'a jamais fait arrêter, ça m'a toujours stimulé. Donc c'était de l'excitation, bien sûr, et de la fierté, bien entendu. Mais c'est une pression pour moi qui était positive, que j'ai connue tout au long de ma carrière. Alors effectivement, tu as cette pression du premier match, mais après, il y a d'autres échéances qui arrivent, et les pressions, tu en as pendant 15 ans après.
Alors tout le monde n'a pas eu un papa qui a joué en une à Toulon et qui a pu faire cette filiation. Est-ce que tes parents sont au stade la première fois que tu rentres à Mayol, que tu portes le numéro 10 du RCT ?
Sincèrement, j'en ai pas un souvenir particulier, mais ça fait aucun doute. Ça fait aucun doute qu'ils sont là, bien entendu. Et ils ont été là d'ailleurs dans tous les autres matchs. Hein. En fait, ils ont jamais loupé un match, je pense, en tous les cas à domicile. Et ils ont un peu voyagé aussi pour aller à l'extérieur. Mais non, bien sûr, j'étais soutenu par mes parents. Et notamment, j'avais un débrief de chaque match avec mon père après le match.
Il était sévère ou pas ?
Ah oui, il était dur avec moi, mais c'est ce qui m'a fait avancer, c'était bien. C'est-à-dire que dans notre famille, on s'est toujours arrêté sur ce qui ne fonctionnait pas.
Au moins, t'es fixé.
Voilà. Mais moi-même, à mon égard, c'est-à-dire que j'ai souvent été critique envers moi-même, et tu recherches le match à zéro faute. Et donc moi, ça m'a fait du bien, je pense, que mon père... Pourtant, on s'est pris la tête des fois, hein, après les matchs, hein, parce qu'il était sévère dans le sens qu'il voulait que je fasse toujours mieux, mais ça m'a beaucoup porté, ça m'a fait du bien. Et puis après, c'était un peu à la maison, et puis un peu aussi en troisième mi-temps, parce qu'on a toujours cultivé ça, et ça nous faisait plaisir aussi de boire 2-3 verres après avec les copains, quoi.
Quel rapport à ce moment-là tu as aux anciens ? Est-ce qu'il y a de la complicité ? Est-ce que c'est des grands frères ? Est-ce que tu leur poses des questions ? Est-ce que tu les regardes avec des grands yeux ?
Au tout début, c'est plutôt des grands yeux. C'est-à-dire que moi, c'est des mecs, j'avais le poster dans ma chambre 2 ans avant, quoi. Donc c'est plutôt... je les bade, quoi, quand j'arrive dans ce groupe. T'imagines, t'as 18 ans, t'étais un gamin, tu joues avec des mecs qui ont marqué le rugby à Toulon et même en équipe de France pour certains. Donc évidemment, tu les regardes d'abord avec beaucoup d'admiration. Mais très vite, tu te rends compte qu'ils sont comme toi, que tu joues dans la même équipe et qui sont là pour t'épauler, et donc il y a un côté protectionnisme de la part de ces joueurs là et donc du coup tu te sens encore plus fort et tu te sens soutenu par ces mecs là donc du coup ça te déploie encore plus les ailes et ça a fini par être des grands frères, ouais.
Alors je vais te faire une devinette. On m'a dit pendant une année on l'a protégé, c'est un troisième ligne. Il me dit je chasse avec lui en défense et jamais il nous a remercié publiquement. Est-ce que tu vois de qui je parle?
Ça, il peut y en avoir 3. Hein. Je pensais à Eric Chan, à Léon Lopi ou Thierry Louvet.
Alors c'est peut-être Léon Lopi.
C'est Léon,
qui m'a dit
qu'il ne
vous a jamais remercié.
Je le laisse gagner au golf aujourd'hui. C'est ma manière de le remercier.
Gagnant.
Non, mais il a raison. Il a raison que... Pas que je ne les ai pas remerciés, mais il a raison que ces joueurs-là étaient une aide incroyable. En plus, bon, c'était des règles différentes où les troisième lignes étaient relevées en permanence, des mêlées, des règles différentes. Mais c'est des joueurs de très, très haut niveau. Et encore, je ne parle pas d'Eric Melville qui fait partie de la bande. Hein. Mais je sais que ce n'est pas lui qui aurait pu balancer les cordes comme ça. Ouais, c'est des mecs effectivement qui avaient un niveau incroyable et qui nous ont qui m'ont beaucoup aidé moi en tant que numéro 10. Et quand je parlais de la confiance et que du côté protectionniste des uns et des autres, je pensais forcément à eux.
Très rapidement, un surnom intervient, le petit Mozart. Alors, quel moment est-ce que ça te tombe dessus ? Parce que c'est une forme de pression, c'est flatteur, en même temps, faut l'assumer.
Alors ça, ce truc-là vient de l'équipe de France, en fait. Parce que j'ai eu la chance de jouer en équipe de France assez tôt dans ma carrière, dès 94. Et c'est Laurent Cabane, en fait, lors d'une conférence de presse, qui dit ça aux journalistes. Les journalistes posent une question sur moi, et il dit « c'est notre petit Mozart, ça part de là, en fait, quand on fait la tournée en Nouvelle-Zélande ». Et ça m'a collé, ouais, l'étiquette est restée accrochée. Sincèrement, je préférais largement ce surnom-là au Gorée, par exemple, de Saint-André. Hein. C'était plus sympa. Mais bon, après, ça ne m'a jamais mis de pression. Mais curieusement, à cette époque-là, personne ne m'appelait trop comme ça. Et maintenant, plein de copains m'appellent comme ça.
C'est quoi, c'est pour te chambrer ?
C'est bizarre. Non, tu sais, les surnoms, des fois, ça colle. Non, c'est pas pour me brancher. Non, je crois pas. C'est comme ça, c'est comme les surnoms, quoi.
Bon, on reprend le fil de la saison. Philippe Laglaize revient, forcément, au bout de quelques mois. Tu t'es installé comme le joueur titulaire à l'ouverture. Comment ça se passe entre vous et quel est le rapport, notamment, que Jean-Claude Ballatore a à cette concurrence-là ?
Ben, effectivement, il y a eu un début un petit peu compliqué avec Francis Laglaize. C'est-à-dire qu'il venait, effectivement... en recrue importante avec Aubin. Et c'est vrai qu'au tout départ, on a eu l'impression avec Patrice qu'on était un peu traités comme les petits allaient me ramasser les ballons. Quoi. Au tout début, avec Patrice, on s'est un peu vexé en disant « Attends, toi... » Bon, mis à part ce truc-là, très vite, la relation était plutôt bonne. Sauf que la surprise, c'est que ben, les jeunes en question, on était au rendez-vous et on faisait des bons matchs. Quoi. Et en fait, effectivement, quand il revient... à ce moment-là, on a gagné notre place. Et c'est vrai que la concurrence, elle joue, mais j'ai pris le lead de l'équipe à ce moment-là. Quoi. Donc en fait, on se rend compte que je suis titulaire et qu'il joue des morceaux de match. Quoi.
Donc tu continues à garder la confiance du coach.
Ouais, j'ai la confiance. Patrice aussi, d'ailleurs, parce que Francis aurait pu jouer à l'arrière et en 10. Et on est tous les deux titulaires de l'équipe. Et effectivement, on a la confiance du coach et du coup voilà on reste titulaire dans cette équipe quoi.
Tu avais toi cette vision de devoir faire ta place avant la mi-saison où tu te disais bon ben on joue et puis on verra ce qu'il se passe.
Ouais, de faire la place, je sais pas, en tous les cas ce qu'il y avait c'est qu'il y avait le plaisir de jouer en équipe première très vite, le fait de donner le meilleur de soi-même pour l'équipe et pour soi. C'est-à-dire d'être le meilleur possible. Après, sincèrement, je n'ai pas souvenir qu'il y avait des plans de dire « si je suis bon là, après je jouerai ». Enfin, c'était sincèrement, on prenait le truc comme il venait, on n'avait que du bonheur devant nous et on donnait le maximum. Quoi. Mais il n'y avait pas d'arrière-pensée de dire « si je suis bon, il ne pourra pas m'enlever ». Non, on n'était pas là-dedans.
C'est aussi l'avantage des 18-19 ans à ce moment-là.
Oui, exactement. Tu prends ce qu'il y a et tu le prends en grande bouffée d'oxygène et c'est juste que du bonheur. Quoi.
Sauf que à proximité de ton anniversaire des 19 ans, en avril, il y a un match à la vie et à la mort contre Aurillac qui peut coûter la vie du club en première division. T'as toujours donc 18 ou 19 ans à cet âge-là et on te dit tu dois animer l'attaque de l'équipe pour un match décisif.
Alors là, j'ai eu de la chance, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je ne suis pas là pour ce match-là. En fait, sur le match d'Aurillac de la descente, enfin, du maintien, et le match de Nîmes en 16e, en même temps, je suis prêt avec l'équipe de France des moins de 20 ans à Madrid pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans.
Elle se dispute pendant la saison la Coupe du Monde ?
Exactement. Et donc, en même temps, je suis champion du monde avec l'équipe de France des moins de 20 ans et je ne joue pas ces deux matchs, enfin, surtout ce match-là contre Aurillac à grosse pression. Et c'est Jean-Louis Grosjean qui joue en 10, qui fait d'ailleurs des bons matchs. Finalement, je ne ressens jamais cette pression négative. Et quand je reviens, moi, c'est en 8e de finale et on est dans une pression positive. Mais même si j'imagine que les collègues ont dû avoir la pression sur ce match-là, malgré tout, on avait enclenché sur quelques matchs avant un état d'esprit tellement positif que je suis pas sûr qu'ils aient eu si peur que ça pendant ce match-là, et peut-être encore moins les plus jeunes comme Patrice, Marc ou Gérald, parce qu'on avait cette insouciance. Quoi.
Alors, deux questions me viennent avec cette anecdote, le fait que tu ne sois pas là. Quand on t'appelle pour la Coupe du Monde Junior, est-ce que tu y vas en courant ? Est-ce que tu te dis « mince, il faut maintenir le club ?» Et ensuite, l'autre question, c'est comment est-ce que toi, tu vis ce match d'Aurillac, sachant qu'on n'était pas à l'époque du web 2.0 où tu avais le résultat en direct ?
Exactement, il fallait aller dans une cabine téléphonique pour avoir l'information. Sincèrement, bien sûr que je pensais aux copains. Après, je vivais mon truc aussi, parce qu'une Coupe du Monde en junior avec l'équipe de France, c'est aussi un moment fort de ta carrière. C'est tes premiers titres, c'est une aventure humaine qui est sympa aussi. Donc évidemment, je pensais aux copains qui jouaient contre Aurillac. J'étais pas tellement inquiet pour eux, à vrai dire. Ce sont mon insouciance. Mais j'étais quand même dans ma compétition à côté. Quoi.
Et donc le résultat, comment est-ce que tu l'obtiens suite à Aurillac ?
Le résultat, je ne m'en souviens pas. Sincèrement, je ne m'en souviens pas. Certainement que j'ai dû passer un coup de fil pour me tenir informé, mais je ne me souviens pas. Mais je ne ressens pas un soulagement, en fait. Ça ne faisait aucun doute, ouais.
D'accord. Et alors, tu reviens en huitième, c'est ce que tu viens de nous expliquer. Quand tu reviens, tu dois être porté par une euphorie d'avoir gagné un titre avec les juniors de l'équipe de France. Tu reviens dans le moule directement. Comment ça se passe ?
Ouais, effectivement, je reviens dans l'euphorie. Je suis en pleine forme. Tout se passe bien pour moi. Jean-Claude Balateur, l'entraîneur, me fait confiance. Et là aussi, il me remet en huitième de finale, alors que c'est Jean-Luc Varin qui avait joué le match contre Aurillac et les 16e. Il aurait pu aussi se dire « je bouge pas hein, ». Et il me remet sur la scène. Et avec ce match à Béziers, et tout de suite, je suis dans le chaudron, parce que ce match à Béziers, il est juste incroyable. Hein. Quand on arrive, j'ai le souvenir, quand on arrive au péage à la Ciotat, où c'est rouge et noir de monde qui vont au stade. Donc nous, ça nous met directement dans l'ambiance. Et aux abords du stade, c'est une ambiance de dingue. Quoi. Et là, tout se passe bien. Et puis enfin, on fait un gros match de rugby. Quoi. Et contre un Béziers de l'époque, qui était une belle équipe. Hein. J'avais Didier Cambérabéro en face de moi. Pareil, j'avais le poster dans ma chambre quelques années avant. Hein.
Bah allez, c'est parti, on met le maillot et on voit ce qui se passe.
Ouais, exactement, ouais. Et puis voilà, une fierté de jouer des si grands joueurs. Et puis là, on sent qu'il y a une spirale positive qui est super intéressante. On pense jamais au titre. Enfin, moi, je pense jamais au titre. C'est bateau ce que je vais dire, mais c'est vraiment match après match où on prend du bonheur, hop, on gravit une marche, mais on s'imagine pas qu'on puisse aller plus loin, quoi.
Pour revenir sur ton retour, et comment Gruérin lui prend ce retour ? Est-ce qu'il imagine qu'il va jouer ? Est-ce que c'est établi qu'à ton retour, tu vas être titulaire ? Est-ce que c'est dans la semaine que la décision se fait parce que tu, à l'entraînement, tu casses la baraque ? Comment tu redeviens titulaire directement ?
Sincèrement, j'avais été beaucoup titulaire toute la saison quand même. J'en ai jamais trop parlé avec Jean-Louis Gruérin de ça. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est un tel bon mec qu'il a rien fait paraître en tous les cas. Puisqu'après il est remplaçant, il est dans le groupe hein, tout le temps, hein, même en finale c'est lui qui est dans le groupe, c'est pas Francis Aglès pour le coup qui donc effectivement on n'en a jamais trop parlé, mais après c'était un âge aussi où tu prends le truc et t'as pas suffisamment de maturité peut-être pour aller voir l'autre et lui dire qu'est-ce que t'en penses, enfin, je sais pas, toi t'es quand même un gamin de 18 ans hein.
Oui, tu prends le truc comme il vient aussi,
ouais.
Et donc toi à ce moment-là, alors je coupe un peu du rugby, mais t'es en pleine révision pour ton bac. Année des 18 ans, tu dois tout gérer en même temps.
Faut vite le dire.
l'année du bac, c'est sûr.
C'est l'année du bac, c'est sûr. Après, autant te dire que vu l'aventure humaine qu'on est en train de vivre, les cahiers, ils ont pris un peu la poussière. Même si avec Patrice, on faisait la une de Varmatin avec nos bouquins dans les mains. Bon, c'était pour les médias. mais sincèrement, quoique Patrice, il bossait plus que moi quand même. Non, l'objectif c'était d'être. C'était le rugby là, à ce moment-là. Je me suis dit, le bac, je l'aurai l'année d'après, tant pis. J'avais encore 15 jours après pour réviser, hein, entre la finale et le bac, mais j'ai passé 15 jours à aller faire la fête avec les copains et pas ouvrir un livre, quoi. Parce que tu peux pas être champion et pas le fêter, quoi. C'est pas dans ma culture.
Alors, paradoxalement, lui, Patrice, n'a pas trop eu le choix et il nous a expliqué qu'il aspirait à faire la fête, ou même avant d'ailleurs à vivre l'aventure, mais que ses parents lui disaient non, tu vas pas chez Yann, tu restes à la maison, tu bosses. Toi, comment tu vis ça en tant que copain qui a tous les droits sur le coup ?
Ah ouais, moi j'étais dégoûté pour lui, mais ça nous est arrivé d'aller jusqu'à chez lui. Demander aux parents, avec les autres joueurs, avec certains autres joueurs, demander aux parents de laisser le nous une ou deux fois, enfin, de lâcher la bride, quoi, mais il n'y avait rien à faire, quoi. Et le comble du comble, quand même, c'est qu'au final, moi, j'ai rien foutu. J'ai le bac.
Et lui qui a bossé.
Et Patrice qui a bossé, qui n'a pas le bac, quoi. Donc, il n'y a pas de justice, là, mais bon. Et 30 ans après, je le branche encore sur ça.
C'est normal, c'est le minimum. Non, mais est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, toi, tu as le droit, alors même pas au moment où vous avez gagné le titre, mais avant dans les révisions, est-ce que tu penses que tu bénéficies aussi du fait d'avoir eu des parents qui connaissent ce qu'est le rugby et ce que représente le
rugby ? Carrément. Mes parents, ils m'ont pas emmerdé pour ça. Et pour eux, c'était. Eux, ils vivaient à travers moi aussi cette aventure magnifique, cette épopée. Parce qu'ils sont tellement rugby, autant mon père que ma mère d'ailleurs. Donc, évidemment, eux aussi se sont dit, le bac, on verra l'année d'après, quoi. Donc,
Et ton statut, le statut social d'un minot de 18 ans, 19 ans, est-ce qu'il évolue à cette époque-là ? Quand tu vas au lycée, est-ce qu'on te regarde avec des grands yeux ?
Bien sûr.
Comment on gère ça ?
J'ai toujours été assez bien entouré à ce niveau-là, donc je pense pas qu'on ait pris la... Mais quand je dis « on », je pense aussi aux autres copains qui étaient jeunes. Je pense pas qu'on ait pris la grosse tête à ce moment-là, et on était portés par les gens, effectivement. Mais... Non, je pense qu'on était... Le fait de bien être bien entouré, je pense pas qu'on ait pris la grosse tête. Et puis, c'était que du plaisir, que du bonheur. Alors, effectivement, du jour au lendemain, t'es beaucoup plus reconnu. Tout ce que tu fais, voilà, c'est commenté. Mais bon, on n'est pas non plus à une époque des réseaux sociaux. Enfin, c'était quand même beaucoup plus light, beaucoup plus cool. Et puis, je trouve que les gens, contrairement à maintenant, peut-être, il y avait plus de bienveillance. C'est-à-dire qu'on nous critiquait pas beaucoup et on n'a pas toujours fait des bons matchs. Mais c'était plutôt positif. Alors qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je vois beaucoup de supporters qui sont sans cesse dans la critique. C'est souvent négatif. Et moi, je ressentais pas ça. Quand je jouais, on n'avait pas ce public-là, non.
Alors, est-ce que c'était une question d'époque ou c'est une question de ressenti avec ton insouciance de l'époque aussi ?
Non, c'est une question... un petit peu les deux, peut-être. Je pense que c'est une question d'époque aussi. Parce qu'il y avait une indulgence vis-à-vis de cette équipe qui était sur le papier moyenne quand même. Hein. Toi, au départ, on ne promettait pas d'être champion en avant-saison. Hein. Donc je pense qu'il y avait une indulgence. Et puis voilà, les modes de communication ont tellement changé que c'est un peu différent.
C'est incomparable, bien sûr. On reprend le fil de la saison rugby. Du coup, le bac, on a bien compris que c'était pas entre parenthèses, mais en tout cas que ça faisait partie du processus très très lointain.
Ouais, ouais, ouais.
Donc 8e de finale, ça passe. Quart de finale contre Tarbes, ça passe.
Ouais.
Et là, est-ce que tu te dis, on n'est pas loin de réaliser quelque chose de dingue ?
Ouais, ouais. Alors effectivement, on veut pas trop y croire quand même. Donc on joue cette demi en étant super appliqué, en continuant à faire ce qu'on fait. Sincèrement, la demi-finale, pourtant il tombait des trompes d'eau, c'était injouable, mais on est très dominant sur le match, donc il n'y a pas trop photo et on se pose pas la question de est-ce qu'on peut perdre à aucun moment du match. Et donc voilà, et après on arrive en finale et effectivement cette dernière semaine est un peu folle quand même.
Justement, raconte-la nous.
Ouais. Bah, déjà, on revient avec le train des supporters, ce qui se faisait à l'époque. Hein. Donc, autant dire qu'on fait tous les wagons à boire du Ricard, des bières et à faire les cons. On avait 15 jours, je crois, entre la demi et la finale. Et donc, voilà, ça fait partie de... C'est comme ça se gérait à Toulon avant les finales, et tant mieux. Et donc, on est porté par toute la population qui sont dingues et qui sont incroyables avec nous, et c'est top. Et ça nous met une motivation, ça nous donne une motivation folle. Et donc, les semaines avant, ouais, je me souviens notamment d'un entraînement à Mayol, juste avant de partir... à Paris, en mise au vert, où on s'entraîne à Mayol, et en fait, le stade, alors, il n'est pas plein, hein, mais il y a beaucoup de monde, et qui chante, et je me souviens qu'avec Patrice, on tente des drops et des pénalités à la fin d'entraînement qu'on faisait tous les jours, et le public nous siffle pour nous habituer, quoi. Ouais, on sentait
pour
bien que
c'était...
Voilà, parmi les sifflets, il y avait « Allez-y, les petits machins, trucs », mais on sentait qu'ils voulaient nous mettre dans la situation, quoi. Et je me souviens que cet entraînement, on le fait à fond, parce qu'en fait, on est déjà porté par l'environnement.
Donc, tu ne calcules plus.
Ouais, c'était génial. Et donc, voilà, puis après, on part à Paris, et là, on est dans une certaine décontraction. Et là, c'est incroyable de le dire aujourd'hui, mais on est sûr de nous, quoi. On est sûr de nous. Ouais.
Alors pour revenir à la semaine qui précède, mais c'est notamment Thierry Louvet qui nous disait, nous, notre rôle d'ancien, c'était de dire aux plus jeunes, attention, ne vous dispersez pas, on se fait des barbecues entre nous, on se fait des gamelles entre nous, mais on essaye de pas, parce que quand on va à la boulangerie, il y a 30 personnes qui nous tapent sur l'épaule, donc on essaie de pas sortir, est-ce que soit ça, tu entends leur discours, le discours des anciens à ce moment-là, qui te disent, on essaie de rester focalisé sur notre objectif ?
Ouais, non, mais on est à l'écoute de ces mecs-là, qui avaient de l'expérience, bien sûr qu'on était à l'écoute, et on a respecté ça. Et comme je te disais, on était aussi bien entourés familialement. Et je pense qu'on était assez mature dans nos tronches aussi pour bien appréhender ça, pour bien le vivre. Après, effectivement, t'es dans un environnement qui est chaud bouillant. Hein, donc, tout à l'époque, ça se faisait beaucoup. Toutes les boutiques, tout le centre-ville était rouge et noir. Moi, j'habitais dans le centre-ville, à l'hôtel Terminus en face de la gare. Donc, autant dire que voilà, je baignais dans l'atmosphère. Et puis on allait à l'école aussi, et puis elle est forcément à l'école, tu vois.
Forcément que.
Ouais, t'étais en terminale. Mais ouais, c'était que positif. Mais ouais, on sait pas. Après, ça n'a jamais été notre genre, les plus jeunes contre les plus vieux. Autant on savait faire la fête après les matchs, autant on avait une certaine rigueur avant les matchs quand même. Et on était bien concentrés, on faisait attention à notre hygiène de vie, et c'était important pour nous.
Bon, alors cette finale arrive au Parc des Princes. Il y a l'histoire du bonsaï remis par Patrice à Saint-Franco. Il y a l'histoire de. Tiens, toi d'ailleurs, en tant que copain, il t'en parle un peu, Patrice, à ce moment-là, du bonsaï. Il te dit, mais on fait une connerie, ou alors ça va être trop drôle, ou est-ce qu'il t'en parle à ce moment-là ?
Non, mais nous, on se fout de sa gueule.
Tout le groupe.
Non, pas tout le... Allez, je pense à 2-3 jeunes, mais gentiment, tu vois, c'est cool. Et puis c'est bien, parce que ça marque aussi, on est respectueux du rugby, et Serge Blanco, on aime ou on n'aime pas, mais ça a été quand même un monstre du rugby, donc c'était une façon de, voilà, d'avoir un petit geste, mais pour autant... On voulait rien lui laisser.
Hein. Il était hors de question de lui laisser un bouclier.
Mais rien du tout, même pas un mètre.
Et donc cette finale, toi, comment tu la vis? Est-ce que tu en as un souvenir précis? Est-ce que ça fait partie des matchs que tu as déjà revus, jamais revus? Comment tu vis cet événement-là qui est forcément le plus fort de ta vie à ce moment-là?
Ouais, et ben on le vit très bien. On le vit très bien. Comme je te disais tout à l'heure, on est en grande confiance en fait. On a des joueurs d'expérience dans notre équipe qui nous mettent dans cette confiance-là. Quand on se regarde, on est sûr de nous. On est motivé, concentré, mais sûr de nous. On
n'a pas une pression négative.
Ouais, de notre rugby, le fait qu'on va gagner, de notre puissance, de tout. On est vraiment sûr de nous. Et tu vois, j'ai ce souvenir qu'on sort en marchant du tunnel pour aller se placer pour la présentation à Mitterrand à l'époque. Et là, dans nos attitudes, on est fiers, on est fermé du visage, mais on le sait. Voilà, il y a un truc qui nous anime. Un truc qui nous anime, qui est très fort. Et bon, peut-être que les Biarrots pourraient dire la même chose. Hein. C'est facile de raconter l'histoire quand tu as gagné. Mais la sensation, en tous les cas, ma sensation à ce moment-là, c'est celle-ci. Et voilà, on est sûr de nous, de notre rugby. Et puis même si le match, des fois, il y a des temps forts, des temps faibles, mais on ne perd jamais le fil. Quoi. Et on score vite. Dès qu'on est dans une période de domination, on met des points. C'est vrai que le fait de mettre mon premier drop, moi, nous met en confiance, mais je pense nous met tous un peu en confiance aussi. Et voilà, et le match part, se déroule bien. Quoi.
Alors, curiosité, mais à 19 ans, on dit bonjour au président. Il y a des personnes dans leur vie qui ne diront jamais bonjour à un président. Toi, à 19 ans, tu serres la main de François Mitterrand à l'époque. Comment tu vis ça?
Je suis dans mon match. Sincèrement, ouais, je m'en fous un peu. Je m'en fous un peu parce que, ouais, je suis dans mon match. Ça y est, je pense au coup d'envoi, je suis dedans, quoi. Donc, ouais, bon, c'est cool, le président, mais...
Faut gagner.
Pourtant, je suis très respectueux, moi, des institutions et tout, hein, c'est ma personnalité. Mais là,
Tu peux pas y penser.
Non.
Et donc, le match se joue. Dernière minute, pénalité de Patrice qui passe à côté des perches. Qu'importe, tout le monde est champion de France. Quelle est ta première réaction?
Ma première réaction, il en a encore loupé une, celui-là. Non, je déconne. Non, je déconne. Ma première réaction, c'est... ça, c'est une énergie incroyable qui nous transperce. Quoi. On est porté par un truc indescriptible. C'est l'aboutissement d'une saison difficile. C'est la fierté. C'est avec les copains, parce que aujourd'hui, et c'est pas un hasard si 30 ans après on se revoit tous et qu'on est content de se revoir. Donc c'est c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est que des Toulonnais hein, qui jouent dans cette équipe, hein, avec Eric Melville en plus qui est avec nous, mais qui est plus Toulonnais que nous. Donc effectivement, tu as la fierté pour toi, tu as la fierté pour ton équipe, pour ton club et pour tous les gens qui supportent ce club-là, quoi. Donc tu es vraiment porté. Et puis j'ai une pensée pour mon père parce que lui, il a perdu.
Il est dans le stade ce jour-là?
Ouais, bien sûr.
Et alors, c'est le premier que tu vas voir, probablement?
Non, je ne vais pas le voir tout de suite. Bah, déjà, ça ne se faisait pas trop. On ne savait pas où il était placé et tout ça à l'époque.
Tu ne l'avais pas vu pendant le match? Tu ne savais pas
non,
où
non,
il
non,
était?
Non, non, je ne savais pas où il était. Non, pendant le match, je ne sais pas où il est. Mais j'ai une pensée pour lui parce que j'ai une revanche. Ça, c'est... Ouais, j'ai une revanche à prendre pour lui.
Et donc, est-ce que ça t'anime à un moment du match? Tu n'y penses pas? C'est juste à la fin où...
Non, ça m'anime un peu avant, dans ma préparation. Pendant le match, j'y pense pas du tout. Je suis dans mon match, j'y pense pas du tout. Et j'y pense à la fin quand on est champion, quoi. Et puis, c'est la communion avec les copains, avec le public. Et ça, c'est des moments super forts. La communion là, dans le stade, et après la communion quand on arrive à Toulon, quand on rentre.
Alors avant de rentrer à Toulon, on a eu deux versions de l'histoire, le bouclier. Ah. Alors, on a une version de Patrice Tesser qui nous dit, avec Yann, on se prend dans les bras, et tant qu'on fasse tour de stade, ouais. On touche pas le bouclier.
Ben non, en fait, on saute dans les bras, on est ensemble, on va voir les supporters direct. Notre réflexe, c'est pas d'aller voir le bouclier, c'est d'aller dans notre cop, quoi, toi, d'aller vers la tribune, et d'aller vers les gens pour communier avec eux. Et on communie avec eux et tout, et d'un seul coup, on entend la foule un peu... Et on se retourne et on voit tous les copains qui sont en haut, qui sont en train de monter de la tribune, prêts à soulever le bouclier, quoi. Et donc là, on voit ça et on part en courant rejoindre les autres pour aller soulever le bouclier. Donc effectivement, on était un peu à la bourre pour la levée du bouclard. Et c'est comme ça que ça se passe. Ouais.
Donc Thierry Louvert a tort quand il dit en fait ils avaient des crampes, ils n'arrivaient plus à monter la tribune.
Non, c'est des conneries. Non, au contraire. On n'avait pas de crampes. Là, on courait pas, en fait. On volait, là. Là, on volait.
Mais au moment de ta vie, oui, il ne peut plus rien t'arriver. Ce jour-là,
Là, tu es. Tu penses. Il n'y a rien de négatif.
Tu te rappelles du soir de cette victoire? Tu te rappelles du retour? Voilà, qu'est-ce qui a marqué dans ton esprit sur les heures et les jours qui suivent?
Bien sûr, grosse bringue à Paris. Et après, c'est le retour. Le retour est dingue. On arrive, on prend le bateau, on arrive sur la rade en bateau. Et là, on voit cette marée humaine rouge et noir. C'est-à-dire que le lendemain, les gens sont peints en rouge et noir, il y a des drapeaux partout. C'est l'hystérie, quoi. C'est l'hystérie. On est présenté à la mairie. Après, on va à Mayol. On est avec les minots de l'école de rugby. On les prend sur les épaules. On fait des tours d'honneur devant un public plein et craqué. Les gens attendent, ils ne peuvent pas rentrer dans le stade. Et puis après, on est lâché. Après, on va faire la fête avec eux, quoi. Après, moi, je me jette dans le port avec les autres copains. Enfin, toi, après, c'est du n'importe quoi. Mais c'est du bon n'importe quoi.
Il y a les copains Krabos aussi dans l'affaire, les copains juniors, les copains
Krabos.
Ouais,
les copains juniors, t'as raison. Sauf qu'en fait, on les a jamais trop. Enfin, on n'était jamais. Même si on était juniors, on n'a jamais joué avec eux. On s'entraînait pas avec eux. Donc moi, je suis redescendu pour un match. Il y avait un match que l'équipe première ne jouait pas. Donc j'étais redescendu pour jouer un match avec l'équipe junior, toi, à Grenoble. Mais je fais. Mais voilà, c'était des copains, hein, mais c'était pas des amis comme ceux de l'équipe première, parce qu'en fait, on partageait pas grand chose avec eux. On était. Notre équipe, c'était l'équipe première, hein, cette année-là.
Et donc là, suivent 15 jours de bringue.
Ah ouais, 15 jours où on ne s'est pas couché beaucoup avant 7h du matin. Ouais. C'était du grand n'importe quoi. Mais quel plaisir. Et puis au bout de 15 jours, toute l'équipe part en tournée au Venezuela. Ils ont fait deux pays, je ne sais plus. Et nous, on ne peut pas y aller, on a le bac, quoi.
Et oui, donc là, tu es rattrapé par la réalité.
On est un peu dégueu de pas pouvoir y aller. Mais bon, après, il y a les impératifs. Et heureusement aussi pour l'hygiène de vie, toi, ça, parce que 15 jours de bringue, tu commences à être fatigué.
La saison, elle ne redémarre jamais après.
Ouais, voilà. Donc, donc après, tu continues à surfer. Ben, les copains ne sont plus là. Il y a le bac, donc ça. Mais voilà, tu as une fierté, quoi. Tu as une fierté, tu passes un super été. Tu passes un super été, ouais.
Et alors, il paraît que tu es le seul de la bande à avoir le bac cette année-là. Mais il paraît aussi que tu avais pris une filiale où tu étais sûr d'avoir plein d'euros pour qu'on se dise Monsieur Delegue, champion de France.
Ça, c'est Patrice qui a dû lancer ces conneries. Non, mais écoute, j'ai un peu de chance parce qu'effectivement, on peut le dire maintenant, il y a prescription. Mais en fait, quand je dis j'ai le bac, je suis au rattrapage. Mais avec le maximum de points à rattraper. Et donc, j'avais eu un en maths, donc catastrophique.
Pas
terrible. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que tu peux rattraper beaucoup de points, parce que je valais quand même pas ça. Et en éco, j'ai 7. Et j'avais, à l'époque, c'était un bac B, donc ES maintenant, je crois que ça s'appelle. Donc il y avait des gros coefficients sur l'éco. Et quand j'arrive en rattrapage en économie, je tombe sur un mec qui me dit « Putain, j'étais en 8e de finale à Marseille, c'était magnifique, raconte-moi le match. » Donc, si tu veux, le truc de devoir que je devais faire, on parle que de rugby avec le mec. Et à la fin, il me dit « Mais combien il te faut ?» Je dis « Mais mets-moi le maximum. »
Toi, tu comprends tout de suite que tu vas pas faire l'examen ?
Pas tout de suite, parce qu'au début, il me dit « J'étais au match. » Je dis « Bon, super, déjà, ça joue pour moi. » Mais je pensais que j'allais quand même parler d'un sujet d'économie, quoi. Et pas du tout, on a parlé rugby pendant les 20 minutes, quoi. Donc je sors de là un peu confiant. Après, j'arrive en maths. Bon, mais là, par contre, c'était une petite vieille qui me connaissait pas du tout.
Carrément.
Mais bon, j'étais pas aussi nul que 1 quand même, donc j'ai pu avoir une meilleure note. Et donc voilà, j'arrive à avoir le bac comme ça. Donc effectivement, j'avais un peu de chance quand même.
Bon, mais merci Anne. Non, si, est-ce que tu as peut-être une petite anecdote que tu n'as jamais racontée, quelque chose qui vous est arrivé sur cette saison-là que...
Je pense qu'on a déjà tout raconté, mais non, l'anecdote, c'était de toucher ce bouclier, parce que c'est un objet particulier quand tu es un rugbyman. Et quand tu es un rugbyman qui rêve de rugby depuis qu'il est né, d'aller toucher ce truc-là dès ta première saison... C'est très très fort. Et donc voilà, c'était vraiment ce plaisir de contempler cet objet. Et c'était vraiment un moment fort et de le faire à mon père.
Mais alors, justement, est-ce que tu te rends compte à ce moment-là que tout le monde ne touchera pas pendant 20 années ce bouclier ? Est-ce que tu l'as en tête ? D'ailleurs, peut-être qu'à 18 ans, tu te dis, bon, en fait, c'est pas si compliqué d'aller chercher le bouclier.
Non, mais carrément. Alors ça, c'est ce que les anciens nous disaient. Attention, les jeunes, hein. Calmez-vous, parce que c'est pas tout le temps comme ça. Et nous, effectivement, sur notre petit nuage, on se dit, mais si c'est pas si dur.
Tous les ans, on va aller le chercher.
Tous les ans, on va aller le chercher. Sauf que derrière, effectivement, c'est difficile. Et moi, avec Toulon, on s'imaginait pas. Donc, parce que l'année d'après, on perd en demi, donc on n'était pas loin non plus. Et puis, on avait une équipe en confiance, donc on pensait que les années d'après, on pouvait aller rechercher le bouclier. Bah, il s'est avéré que ça a été plutôt l'inverse, où ça a été de plus en plus difficile. Mais non, quand on parle d'insouciance, c'est exactement ça. On croyait que c'était plus facile que ce que ça l'est vraiment. Quoi. Et j'ai pu avoir la chance de retoucher le bouclier. Alors, pas avec Toulon, mais avec moi, un autre club après. Et le plaisir était différent. Très, très fort aussi. Mais j'avais attendu quasiment 10 ans pour retoucher. Donc, t'es pas le même homme.
Justement, tu as celui de 92, celui de 99 et celui de 2001 avec Toulouse.
Je pense à celui de 2001 parce que 99, je fais toute la saison, mais je me pète les croisés juste avant les phases finales. Mais en 2001, effectivement, donc ça fait 9 ans après, c'est un plaisir énorme, mais que je vis autrement parce que ouais, y a 9 ans qui sont passés. Et voilà, mais t'as pas. C'est difficile, les gens te disent, mais tu t'as préféré quoi ? Mais en fait, c'est des périodes de ta vie différentes, donc tu les as appréciées de manière différente. C'est comme quand on te dit t'as deux enfants ou trois enfants,
tu préfères lequel ?
Mais voilà, c'est un peu pareil, quoi.
Merci Yann, merci d'avoir ouvert la boîte à souvenirs.
Ben, merci à toi, c'était un plaisir c'est toujours un plaisir de reparler de cette épopée formidable.
On se donne rendez-vous dans 10 ans ?
Ben, j'espère, ouais.
Ce serait une bonne nouvelle. Merci Yann.
Merci.
Rugby Club Toulonnais, 1992-2022, les 30 ans d'un titre impensable, avec Yann Delegue, la naissance du petit Mozart.
Cette victoire à laquelle personne ne croyait, celle des genoux de l'Université de Besagne.
Un épisode chaque vendredi pendant 10 semaines.
J'imagine que ça doit être du délire sous la rade.
Un podcast de la rédaction des sports de Varmatan, Fabrice Michelier, Pierrick Illy-Cruffinati, Olivier Buisson, avec Sonia Bonin.